vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 51. La guerre de naguère en master. Chers amis, bonjour. Tous les étudiants strasbourgeois, parce qu'ils sont ici, à Strasbourg, devraient s'intéresser à l'histoire, ou plus précisément à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale en Alsace. Alors aujourd'hui, dans vous l'avez bien connu, nous recevons sur Radio Judaïca Nicolas Logel, étudiant en Master 2, et dont le sujet est la communauté juive à Haguenau après la Seconde Guerre mondiale. On peut bien entendu se demander pourquoi ce sujet dans un cursus à la fac d'histoire.
Bonjour Nicolas Logel.
Bonjour Ambroise Perrin, merci de m'avoir invité dans votre émission.
Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à ce choix ? Puisque j'ai un petit peu potassé le sujet, j'ai vu que rien n'avait été écrit, enfin du moins quelques petits articles par-ci par-là, mais rien, aucun travaux d'envergure.
Alors justement, c'est ça qui est très étonnant, c'est que des sujets qui semblent tellement évidents, bateaux on dirait, parfois n'ont été que effleurés ou au contraire n'ont une notoriété que par une sorte de consensus, de oui-dire, et on se dit, ben voilà, il s'est passé telle et telle chose, et personne n'a approfondi. Et j'ai appris par mes professeurs, lorsque je cherchais un sujet, qu'effectivement, il y avait beaucoup d'archives qui étaient disponibles, mais qu'elles n'avaient jamais été exploitées.
Alors, dites-moi justement, en parlant de ces archives, est-ce que l'accès a été difficile ? Enfin, on traite d'une période quand même assez sensible. Est-ce qu'il faut maîtriser une langue spéciale, puisqu'on est en Alsace ? Est-ce qu'il faut parler
allemand ? Bien sûr, j'ai appris l'allemand. J'ai appris l'allemand pour faire ce travail. C'est pas ma langue. Moi, je parle le portugais, parce que ma maman est portugaise, née au Brésil. Je parle l'alsacien, parce que mon papa... Et un bon Alsacien, on habite à Geudertheim, hein, dans l'Alsace profonde. J'ai appris l'anglais parce qu'à la fac, il faut parler l'anglais, et puis parce que ça permet de voyager. J'adore voyager, mais en fait, je ne maîtrisais pas l'allemand parce que quand j'étais à l'école, au lycée, tous les copains parlaient tellement bien l'alsacien et l'allemand, mais comme moi, je parlais le portugais à la maison... j'aurais eu 18 sur 20, mais j'aurais été le dernier. Les autres ayant 19 sur 20. Donc j'ai appris l'allemand à la fac, et je dois dire que ça a été un grand plaisir de me plonger dans cette langue. C'est quand même assez paradoxal, hein, c'est un petit peu, je dirais, un peu tordu. Hein. Et en fait, j'ai appris l'allemand pour voir les horreurs des Allemands. Oui, donc c'est voilà. Mais enfin, j'ai quand même lu Goethe et Schiller pour le plaisir.
Et en parlant de ces horreurs, est-ce que vous avez été capable donc d'apprécier cette langue ? Parce que souvent, quand on entend des discours des dignitaires nazis, c'est une langue assez dure, etc. Et puis quand on sait tout ce qu'ils ont commis, d'autant plus quand vous avez travaillé sur un sujet comme celui-ci, est-ce que vous êtes encore capable de voir dans la beauté
Non, mais Ambroise, écoutez, ça, je vais vous répondre de façon un petit peu standardisée, c'est un cliché. La première question, c'est de se dire comment un peuple, des gens qui ont une telle culture, j'ai cité Schiller, Goethe, mais toute la littérature allemande, j'en prendrai qu'un, Alfred Döblin, que j'avais lu juste avant sur Berlin, peut avoir produit, donc Döblin les années 20, en 1930, le national-socialisme. Donc comment une langue aussi belle, aussi cultivée, qui était une langue diplomatique comme le français, a pu produire un sentiment de gens qui approuvaient cette horreur. Oui, c'est une question, quand on apprend la langue, en plus comme une langue étrangère, entre guillemets, c'est assez compliqué. Et en même temps, quelle belle langue, l'allemand.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous, c'est vrai que vous parliez là donc de cette dualité, et ça me paraît tout à fait intéressant. En tant qu'historien, je pense qu'on arrive à comprendre les mécanismes qui ont amené à cette tragédie, mais en tant qu'humain, est-ce qu'on peut arriver à comprendre cela ?
Moi, je suis étudiant, hein. Donc je ne suis pas sociologue, psychologue. J'essaye de faire ce travail selon les normes de l'écriture de l'histoire, c'est-à-dire m'intéresser aux faits et de les analyser et de les mettre dans leur contexte. Est-ce qu'on aime ce qu'on fait ? Oui. Et autrement, j'ai oublié le début de votre question.
C'était justement qu'historien, on peut comprendre donc comment on en est arrivé là, mais en tant qu'humain, comment on se positionne face à ces faits ? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de nous qui s'emporte par l'émotion, mais d'un autre côté, l'historien nous dit qu'on doit rester neutre ? Comment se positionner ?
Comme je ne suis pas allemand, et que j'ai appris l'allemand, non seulement de façon utilitaire, mais par plaisir, quand je me promène en Allemagne, que je regarde les gens, je me dis, et son grand-père, ou son arrière-grand-père, ou sa grand-mère, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre ? Et il y a un sentiment que je ne veux pas développer, parce que ce n'est pas mon sujet, d'impression de culpabilité collective. Bon, je suis historien, mais je pense que, alors le fameux... un règne de 1000 ans, hein, pour le Troisième Reich. Mais je pense que dans 1000 ans, on parlera encore, quand on dira les Allemands, on ne pourra pas s'empêcher de faire un parallèle avec cette tragédie qui a commencé en 1933 et qui s'est terminée dans les fours d'Auschwitz. Je pense que c'est une tâche indélébile et je pense qu'on porte toujours la culpabilité de ce qu'ont fait vos parents. Alors c'est pour ça que moi, en tant qu'historien, c'est un sujet qui ne concerne pas du tout ma famille. Donc je l'ai pris comme ça, c'est toute une histoire de circonstances avec les profs qui m'ont incité à le faire, et donc je me suis passionné ensuite pour ce sujet. Mais je pense que tous les jeunes de mon âge, hein, j'ai 26 ans, devraient s'interroger par rapport à leur arbre généalogique, de ce qu'ont fait leurs parents, leurs grands-parents, et de voir un petit peu d'où viennent ces pulsions qu'on peut avoir. C'est un devoir de mémoire, le mot qui est galvaudé et qu'on utilise pour les survivants des tragédies. Mais je pense qu'on doit vraiment s'intéresser à ce qui s'est passé autrefois et comment sa propre famille a été impliquée dans ces choses-là. Il y a un livre je crois que c'est une psychanalyste, qui explique qui interviewait des gens dont les grands-parents avaient été des assassins. Et même sans le savoir, parce que souvent ça ne se transmet pas dans la famille, on dit rien, hein, le grand-père il est mort, c'est tout, mais en fait il est mort en prison ou il a été guillotiné. Inconsciemment, il y a quelque chose qui passe. Alors, ce n'est pas des gènes, hein, c'est dans le non-dit des choses de la famille. On doit porter ce fardeau. C'est parfois très lourd. Hein. Bon, si son grand-père a été un nazi, c'est compliqué. Alors, il y a d'autres livres aussi qui existent, notamment une journaliste du Monde qui avait interviewé les enfants des nazis. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Il y en a beaucoup qui sont devenus des militants pacifistes qui ont dénoncé leur père, qui détestent de façon ambiguë leurs parents tout en voulant respecter. C'est un truc très compliqué. Hein. Et donc, quand on est étudiant en histoire comme cela, je pense que si ça se télescope avec son histoire familiale, ça doit être très compliqué à gérer. Moi, ce n'est pas le cas, donc c'est pour ça que j'ai pu le faire. Et puis à Strasbourg, la communauté juive m'a ouvert toutes ses portes. Ça a été formidable. Hein. J'ai pu accéder à tous les documents. Je citerai par exemple, tous les Strasbourgeois le connaissent bien, à la fac d'histoire, c'est Freddy Raphaël qui m'a encouragé, qui m'a aidé vraiment à bien décrypter toute cette documentation. Oui, oui.
Oui, alors Nicolas Logel, dites-moi, en préparant un petit peu cette émission avec vous, vous m'aviez dit que donc, vous ne faites pas partie de la communauté juive, et donc effectivement, il n'y a pas que les juifs qui s'intéressent à cette histoire. Vous me parliez à l'instant de s'intéresser donc à sa propre histoire, mais je pense que s'intéresser à l'histoire des autres, c'est également aussi un petit peu s'intéresser à la sienne.
Oui, on se projette toujours. Alors là, ça, on dépasse le cadre de l'histoire. Ça peut être dans la musique. On reproduit ce qu'on a entendu lorsque l'on était enfant ou lorsqu'on était adolescent, les plaisirs que l'on a eus. Et puis surtout dans la littérature, où on parle toujours que de soi. Enfin, on ne prend que cet exemple sublime, forcément sublime, mais ça c'est Marguerite Duras, si on prend l'exemple de Flaubert, hein, qui a pu montrer combien la littérature, c'était un moyen d'être le plus neutre possible, de ne parler de rien, et en même temps, combien chaque chose de soi est dans le roman, dans l'histoire. Et donc ce télescopage est absolument passionnant et je crois qu'on n'y échappe pas. Bon, on pourrait tous faire des séjours sur le divan, mais ce séjour, il n'est pas obligatoire. Hein. On écrit une thèse, voilà, c'est ce que je vais faire. On écrit un roman, on éduque ses enfants, on leur parle, on raconte des histoires, on transmet l'amour que l'on a eu de ses parents à ses enfants. C'est banal, mais pourtant c'est quelque chose de formidable. Et puis, si les parents, un soir, ne vous ont pas laissé sortir, parce que ce n'était pas raisonnable, vous, vos enfants, quand ils veulent sortir, vous dites non, parce que vous savez qu'il va dire oui et qu'il va le faire quand même. Et donc, voilà.
Eh ben... Quand je vous entends parler de cette manière, vous cassez vraiment avec l'image de l'historien qu'on peut avoir de cette personne rat de bibliothèque qui a son nez plongé dans les vieux papiers, dans les archives.
Alors vous, journaliste, Ambroise Perrin, c'est comme ça que vous voyez un étudiant de Master 2 en train de préparer sa thèse en histoire?
Non, mais c'est le cliché qui s'en dégage, puisque quand on regarde souvent des films de grandes productions américaines, ils décrivent des archéologues ou des historiens vêtus d'une veste de tweed allant aux archives ou allant en Égypte faire des fouilles. Et on a souvent cette image qui est gravée. Donc vous dégagez quelque chose d'autre.
Et qui ouvre des boîtes d'archives que personne n'a consultées depuis des dizaines d'années avec des gants blancs. Et prennent une loupe et ils trouvent des trucs. Bon, ben, moi, je vais vous dire, hein, cher Ambroise, moi, d'abord, j'adore la gastronomie. En gros, j'adore bouffer. Hein, je suis un étudiant en histoire, rat de bibliothèque, mais j'adore cuisiner, j'adore manger. Bon, je ne fais pas 120 kilos, au contraire, je suis un peu sportif, j'ai la chance de ne pas grossir. Bon, j'ai que 26 ans, mais je mange, je picole, je fais plein de choses. J'adore voyager. Dès que j'ai du temps libre, avec des amis, avec ma vie personnelle, familiale, sentimentale, j'essaie d'aller aux quatre coins du monde, même si c'est compliqué pour la planète et le bilan carbone et tout ça. Et puis, manger, oui, alors c'est un truc je ne veux surtout pas, et je ne suis pas la reinière, et je ne veux pas écrire un livre sur l'histoire de la gastronomie. D'ailleurs, ce serait un bon sujet. Il y a tellement de livres en Alsace. Les bouquins qui se vendent le mieux, c'est les bouquins de cuisine et les bouquins de bredel et tout ça. Mais oui, vous rigolez.
Non, vous avez raison, non, vous avez
oui.
Tout à fait raison.
Je vais vous dire, mon plat préféré, c'est le feijoada. Est-ce que vous connaissez le feijoada?
Qu'est-ce que c'est? Dites-moi plus.
Alors ça, c'est un plat que ma maman faisait. Ce sont des haricots noirs, hein, donc ça c'est typiquement brésilien, mais on les trouve à la COP, hein, à Geyserheim, hein, il ne faut pas croire. Hein.
Ah, c'est international.
C'est international, Et alors, ça mijote très doucement, un petit peu comme un cassoulet toulousain, mais ce sera un cassoulet alsacien, brésilien. Donc, on met dedans du jarret, des pieds de porc, de la chourif, qui est une saucisse qui est très épicée. Ça ressemble un peu au chorizo à cause du nom, mais c'est pas exactement la même chose. Et puis on rajoute tout ce qu'on a sous la main. Vous savez, les bons cuisiniers, c'est ceux qui ont de l'imagination et puis qui ouvrent le frigo et les placards et qui trouvent ce qu'il y a et qui arrivent à tout mettre dedans et tout. Et donc je fais donc le feijoada et je régale tout le monde. Et puis c'est un plat qui est formidable parce que on en a pour 3 ou 4 jours. Donc, ensuite, je peux plonger dans mes bouquins d'histoire et tout, et manger ça. Et franchement, c'est délicieux, c'est un petit peu gras. On sait que le gras du cochon, ça transmet le goût. Hein. C'est comme ça, c'est un vecteur de salivation. Et c'est excellent. Moi, je conseille à tout le monde de faire. C'est une recette très facile à faire. Hein. Faut tout mettre dedans et puis cuire très doucement. Dans un plat de Soufflenheim, par exemple, vous rajoutez un plat de Beckehoff, vous mettez tout ça dedans, vous mettez ça au four pendant 160 degrés, ou même moins, 130, 140 degrés, si c'est un four encore à gaz, mais les fours électriques, c'est un peu différent, et vous laissez cuire 6-7 heures. Bien sûr, il faut rajouter du vin blanc ou du vin du Brésil. Maintenant, on trouve le vin du Brésil moins cher que le vin alsacien hein, dans les supermarchés. Vous allez chez Lidl, vous avez du vin du Brésil qui est formidable. Formidable non, mais enfin voilà, on trouve des vins de partout. Et alors au vin rouge ou au vin blanc, ça dépend. Moi, j'aime bien au vin blanc. Mais vous Ambroise, qu'est-ce que vous préférez dans un plat mijoté comme cela?
J'irai personnellement vers le vin rouge. Je suis un très grand fan de bœuf bourguignon.
Ah oui.
C'est ce qui est très drôle, c'est que pour la petite anecdote, j'étais à Paris il y a quelques jours et avec ma copine, on avait follement envie d'un bœuf bourguignon. On était dans le Marais et puis on est tombé sur un restaurant au bœuf bourguignon du Marais.
Ah oui.
Eh ben écoutez,
parce qu'il y a rue des Rosiers, il y a beaucoup de bons restaurants
aussi.
Oui,
rue des Rosiers.
Mais c'est pas, ils font pas des ils font pas des plats aussi lourds, non, je sais
non,
pas.
Non, plus, non. Dans mon souvenir, on y trouve plutôt des plats. On connaît l'as du falafel qui est très connu, mais donc voilà. Mais à vous entendre parler, j'ai l'impression quand même que le métier d'historien et même celui de cuisinier est assez proche, puisque le cuisinier va ouvrir ses frigos sans vraiment savoir qu'est-ce qu'il va y trouver. L'historien va lui plonger dans les archives, ouvrir les cartons sans également savoir qu'est-ce qu'il va y trouver. Et puis tous les deux, ils font une tambouille pour arriver à quelque chose de
oui,
potable.
Oui, c'est une bonne question, Ambroise, sauf que... le cuisinier, il va quand même sélectionner un petit peu les ingrédients parce qu'il ne peut pas tout mettre dedans d'abord. Il faut faire une sélection. Alors que l'historien, il va avoir envie d'être exhaustif. Donc, il trouve un carton d'archives avec une référence qui cite 3 ou 4 autres cartons. Il va tout lire. Même s'il ne va pas tout retenir, il en aura besoin pour mettre en place le contexte et il va vouloir donner le plus de choses. C'est comme ça qu'un Master 2 de 180 pages va faire 523 pages, par exemple, et que le corps 12, on va le diminuer encore 11 pour essayer d'en mettre le plus possible. Le cuisinier, lui, s'il rajoute trop de choses, même... la potée de 3 kilos en fait 6, ça risque d'être indigeste. Alors que l'historien, non. Et la différence aussi, c'est que le cuisinier, bon, bien sûr, il peut cuisiner que pour lui-même. Mais souvent, c'est pour la famille, les amis, ou pour en garder et en manger 3-4 jours de suite, en faire des petits cartons. Moi, je garde les cartons de jus de fruits ou de lait. Pour les mettre au congélateur. Hein, je remplis avec les restes du repas, enfin les restes quand j'en fais trop, et je congèle pour manger quand je veux aller vite. Alors que l'historien, lui, il a quand même une idée derrière. Alors, il y a son directeur de thèse qui va être le premier lecteur, et puis le jury aussi, en espérant que le jury lise la thèse en entier, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ensuite, l'historien, il a envie de se dire « j'aimerais être publié ». et j'aimerais que le grand public et tous les auditeurs de Vous l'avez bien connu, cette émission de radio, se précipitent en librairie pour acheter mon livre à moi, Nicolas Laugelle. Et en même temps, je sais très bien que les 800 ou 900 pages que feront ma thèse, qui va aborder d'autres sujets, hein, pas seulement les Juifs de Haguenau après la Seconde Guerre mondiale, je vais un petit peu élargir le thème. Je sais très bien qu'il va falloir que je le réécrive de façon plus grand public, avec moins de détails, moins de références, enlever les chiffres, faire quelque chose de plus global pour pouvoir être plus, pas seulement plus lisible, mais plus attractif, peut-être raconter une histoire, sortir un ou deux personnages et raconter son histoire. Il y avait des maquignons, des marchands de bestiaux à Haguenau qui étaient assez connus, et beaucoup sont revenus. Je ne sais pas, vous avez lu ma présentation, Ambroise, de mon Master 2?
Ah oui, bien sûr, oui, je vous écoute avec plaisir au congrès des historiens d'Alsace, présentation que j'ai trouvée très claire. Bien sûr, j'aurais aimé vous entendre plus longtemps, puisque 30 minutes n'est pas assez pour évoquer un sujet aussi vaste. Mais
ça m'intéresse, en tant qu'historien donc, de voir qu'est-ce qu'un journaliste a retenu. Résumez-moi un petit peu mon sujet. Je vous dirai si je me suis bien exprimé, si j'ai réussi à être grand public.
Je crois que vous avez rempli tout à fait votre mission, puisque j'en ai retenu que la présence juive à Haguenau est une présence multiséculaire, une présence qui n'est pas du tout ghettoisée. Vous avez précisé qu'il n'y avait jamais eu de ghetto en Alsace, donc c'était des personnes intégrées relativement dans cette société locale. Mais cette intégration avait bien évidemment des limites, puisque la Seconde Guerre mondiale et même avant, la montée de l'antisémitisme l'a prouvé dans les années 30. Mais de l'autre côté, il y a eu...
Vous avez retenu les chiffres? Il y avait combien de juifs à Haguenau?
Il me semble que vous aviez dit quelque chose comme 571 pour 1939 et pour 1948. Je crois que c'était de l'ordre de 280. Une oui. personne.
Donc, qui sont revenus, effectivement, c'est ça, oui.
Et donc, j'ai l'impression, selon vos dires, qu'il y a eu quand même cette volonté de revenir dans leur Alsace natale, qu'ils aimaient quand même, malgré les difficultés qui les attendaient, même celles d'après-guerre, c'est-à-dire récupération de logements, etc. Il y avait une réelle volonté de leur part de... J'ai l'impression de revenir dans cette société, de reprendre leur place en tant que citoyen français, français juif. Voilà ce que j'ai retenu de votre présentation.
Effectivement, vous avez bien retenu, vous êtes un bon journaliste, Ambroise. Mais il y a un autre... un point que je n'avais peut-être pas trop développé, c'est la spoliation. Les gens qui reviennent après-guerre et on leur a volé leur appartement, leur immeuble, leur commerce et tout. C'était quelque chose de terrible. Vous avez lu ça?
Oui, bien sûr. En préparant cette interview, je me suis un petit peu plongé dans quelques textes. Il y a récemment une exposition à la BNU, donc l'Alsace face au nazisme, qui a abordé ces questions. Effectivement, ça a été un phénomène... particulièrement visé, j'ai l'impression, en Alsace, sur les populations juives. Et très rapidement, de ce que j'ai lu, les Allemands, dès qu'ils sont arrivés, ils ont confisqué ces biens-là, ils les ont mis sous séquestre, pour les biens meubles, les ont vendus à bas prix dans des ventes aux enchères ou en vente directe, ou alors on louait les locaux, les habitations des Juifs à d'autres personnes quand ils n'ont pas utilisé ces habitations ou ces locaux pour eux-mêmes, pour y mettre, je crois, des administrations ou des choses comme ça. Je pense que ça a été le cas également à Haguenau.
Oui, oui. Alors moi, j'ai recueilli des témoignages de petits-enfants ou d'enfants, d'adultes en 1946, 47, 48, et qui étaient très gênés, certains, par le retour des Juifs et donc obligés de leur rendre leurs biens. Mais parfois qui produisaient un papier, qui disaient « Ah non, mais je l'ai acheté, c'est à moi, non ». Donc c'est assez intéressant en tant qu'historien de voir toutes ces histoires personnelles qui sont des péripéties personnelles et qui ne sont pas forcément emblématiques de toute une histoire, mais qui quand même racontent bien une ambiance. Et oui, c'est des moments qui pouvaient être très douloureux pour les gens qui avaient survécu, qui revenaient et qui étaient encore obligés de se battre contre un antisémitisme qui était toujours latent. Je sais pas si...
Bien sûr, mais quand même, j'ai bien écouté vos propos et lu, mais ce que je retiens aussi, finalement, c'est aussi cette force de la vie, de vouloir continuer à vivre sans pour autant oublier, mais c'est moi, à titre personnel, en tant qu'auditeur de votre conférence, c'est vraiment cet accent sur la vie qui m'a marqué.
Mais Ambroise, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est spécifique à la communauté juive ou que c'est un sentiment de, comment dire, de survie, de joie de vivre qui peut être vrai pour tout le monde?
C'est une bonne question. En tout cas, je crois que les Juifs ont toujours démontré qu'ils ont cette force en eux puisque bon, je connais un petit peu l'histoire, mais ils sont quand même passés par des phases extrêmement difficiles tout au long de leur histoire. Ils ont toujours su se relever. On voit cette histoire, par exemple, avec les Maran, où ils ont pratiqué leur religion de manière cachée et ils ont transmis leur tradition. Donc, je ne sais pas si c'est spécifique aux Juifs. En tout cas, les Juifs en sont un très bon exemple de cette source de vie.
Eh bien, écoutez... Ambroise, merci encore de m'avoir invité. Alors, j'aurai le plaisir de vous dédicacer mon livre si mon travail d'étudiant en histoire sort un jour. Ce sera très intéressant et peut-être que vous m'inviterez à nouveau dans cette émission. Vous l'avez bien connu.
Je vous inviterai avec plaisir. Merci beaucoup.
C'était l'épisode numéro 51, La guerre de Naguère en master, avec aujourd'hui Nicolas Laugel. Vous l'avez bien connu sur Radio J, avec une diffusion le mardi à 11h30, rediffusion le dimanche à midi. Aujourd'hui à la technique, c'était Thomas Marinelli et mon nom est Ambroise Perrin.